marchant. Orchan, bonsoir à toutes et à tous. Orchan ce soir en compagnie de Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad, vous êtes auteur, écrivain, metteur en scène, acteur. Et je voulais vous demander si, quand vous êtes devenu père, est-ce que des fragments de votre enfance vous sont revenus à la mémoire ?
Non, mais ce qui m'est revenu à la mémoire... Enfin, c'est pas que ça m'est revenu à la mémoire, ce qui a surgi, je dirais, c'est le regard de mes parents sur moi à l'âge de mon enfant. C'est comme si, au fond, les choses se déployaient en poupée russe. Par exemple, là, ma fille a 4 ans et demi, eh bien, je la vois à 4 ans et demi, je la vois à 3 ans et demi, je la vois à 2 ans et demi, je la vois à 2 ans, à 1 an, je vois le jour de sa naissance. Et par effet étrange, je vois le regard de mon père et de ma mère sur moi à 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Et comme si plus elle se déploie, elle, plus je me déploie moi-même dans le regard de mes parents.
Si je vous pose cette question, c'est parce que tout votre travail, qu'il soit littéraire, théâtral, est basé sur la filiation, la transmission, les rapports entre les générations. Savez-vous d'où cela vous vient ? Peut-être de la prime enfance ?
Je dirais davantage peut-être de l'adolescence et de ce hiatus qui a surgi lorsque, découvrant la littérature, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé à lire des œuvres qui me marquaient profondément, et que j'ai commencé à mesurer presque la schizophrénie, je dirais, qui existait entre le silence brisé grâce à la littérature et le silence opaque de la famille dès que je refermais le livre. Et que j'ai voulu, à partir de ce moment-là, rendre plus transparent cette opacité qui était le silence de ma famille. Et que j'ai peu à peu compris qu'il y avait là des silences qui n'étaient pas dus à des silences tout simplement parce qu'on ne parlait plus, mais à des silences qui étaient dus au fait qu'il y avait eu trop de honte, trop d'humiliation, dues aux douleurs, aux souffrances vécues par mes parents et par la génération de mes parents, et qu'il y avait une impossibilité de raconter à ma génération ce qui s'était passé. Et là, la question de la transmission a surgi, c'est-à-dire me disant, eh bien moi, lorsque mes petits-enfants arriveront et me poseront la question, il sera très important de me souvenir de la puissance de la parole. Il faudra trouver le courage pour raconter, même si c'était humiliant ou honteux. Transmettre, c'est faire ressentir, c'est pas seulement enseigner, c'est pas que ça. C'est faire ressentir, c'est bouleverser, c'est enflammer, c'est brûler, c'est illuminer la conscience de l'autre.
Et que s'est-il passé pour vos parents ?
Ben, je crois que c'est le fait de tout perdre et de devoir quitter, devoir subir... du jour au lendemain, voilà, la vie bascule et on prend une décision de quitter un pays momentanément, mais finalement, ce momentanément ne fait que s'étirer dans le temps et puis.
Donc, ce pays, c'est le Liban.
C'est le Liban, voilà. L'appartement est cambriolé. C'est des choses très pratiques, entre guillemets. Il n'y a plus de travail. Il faut emprunter de l'argent à quelqu'un qui en a, qui peut être mon oncle ou quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas que les enfants le sachent. Et petit à petit, cette espèce de coagulation des hontes et des humiliations, qui sont parfois des toutes petites hontes et des toutes petites humiliations, mais la sédimentation de toutes ces choses crée un silence, crée vraiment une incapacité à parler et puis une ambiance pas toujours très agréable à la maison.
Et puis la chute sociale s'accompagne de l'exil, de l'arrachement à la langue.
moi, dans mon cas, la résilience était beaucoup plus puissante que chez moi que chez ma mère ou mon père, où je m'adaptais parfaitement aux nouvelles réalités, j'en tirais énormément de profit. Je découvrais la langue française en France, je découvrais le théâtre au Québec, je découvrais une nouvelle langue française au Québec, j'en construisais une nouvelle langue poétique qui était la mienne. Et tout ça, c'était devenait très étranger à mes propres parents. Et donc, il y a une sorte de séparation. En plus, séparation des valeurs. Je développais des valeurs qui n'étaient pas nécessairement les valeurs de la maison. C'est comme si je partais en fugue. Plus on partait en exil, plus moi, je partais en fugue. Et il y avait une sorte de prise de conscience de la part des parents sur le fait que leurs enfants ne leur ressembleront probablement pas. Donc, il y a énormément d'arrachement pour les parents. Beaucoup de surprises aussi.
Pour vous aussi, Wajdi Mouawad, il y a eu une sédimentation d'arrachements qui ont permis donc la construction de cette œuvre qui est à la fois poétique, philosophique, émotionnelle et qui nous procure un flux de sensations et de perceptions absolument incroyables dans le théâtre contemporain grâce à votre écriture. Nous allons écouter la voix de Jacques Brel. Jacques Brel qui a été un de ceux qui vous ont permis d'apprendre la langue française.
Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête. Sous ton camp de ce trottoir, viens, j'ai bien, viens, viens, viens. Il me reste trois sous, on va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, j'ai bien, viens. Il me reste trois sous, et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux. Comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent.
Alors cette langue française, comment vous l'avez conçue? Parce que vous avez, à partir de l'apprentissage de cette langue française, vous avez construit votre propre arche langagière.
Alors c'est vraiment très juste que vous fassiez un lien entre la chanson et l'apprentissage de la langue. J'ai beaucoup écouté les chanteurs populaires ou les chanteurs, je dirais, émotifs. Ça venait de la maison, parce que mon frère écoutait beaucoup ces chanteurs-là, Brel, Ferré, mais aussi ma mère écoutait continuellement à la radio Pierre Bachelet et Adamo. Et je dirais que cette espèce de sphère mélodramatique et émotive et très très puissante, où la parole est portée par un souffle émotif très grand, comme Brel et Ferré pouvaient le faire, mais aussi extrêmement, oui, mélodramatique, mais extrêmement touchante, comme chez Adamo ou chez Pierre Bachelet, dans certaines chansons, ont construit en moi, je dirais, un bassin émotif qui s'est associé à l'apprentissage de la langue. J'ai appris à parler le français en écoutant sur les premiers Walkman que j'ai pu avoir, Renaud, Brassens, Ferré, Brel, Barbara, mais aussi par la lecture, évidemment. La lecture a été très importante. D'abord, la bande dessinée. J'ai souvent dit que j'ai appris à parler le français grâce à Gottlieb, Renaud et Brel, et c'est vrai. Et je chantais à tue-tête, en marchant dans la rue, ça c'est surtout plus tard au Québec. J'ai distribué les journaux le matin très tôt, à 5h du matin. J'avais mon Walkman et à 5h du matin, je chantais à tue-tête en accompagnant le Walkman. Et là, je pouvais me laisser aller. Au fond, tout ce que je portais s'exprimait à travers ça. Et tout ça, c'était c'était des bribes de quelque chose qui était en sommeil. Mais lorsque je découvre les premières œuvres littéraires qui vont être fondamentales pour moi, c'est-à-dire Tandis que j'agonise de Faulkner, Kafka, La Métamorphose, et puis des œuvres théâtrales d'auteurs québécois comme Claude Gauvreau, je comprends que si j'ai écrit, ce n'est pas parce que j'ai vécu la guerre et l'exil. Si j'ai écrit ou si j'écris, c'est parce que j'ai lu des auteurs. J'écris parce que j'ai lu. Et ça, cette relation, elle est vraiment très importante. Elle me permet de m'inscrire à l'intérieur d'une histoire qui est la mienne, mais qui n'est pas une histoire catastrophique, qui est une histoire littéraire. Et ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important.
Nous allons écouter la voix de Marthe Robert, qui va parler du rapport que Kafka entretient avec l'écriture. C'est une archive du 13 juin 1972.
Depuis toujours, depuis son enfance, Kafka avait le sentiment de n'être pas réellement au monde. Et par monde, il entendait non pas je ne sais quel monde mystérieux, non pas je ne sais quel cosmos, mais bel et bien la société de son temps, la société où il devait vivre. Il n'était pas au monde, il ne savait pas vivre, il n'avait pas appris et il n'avait pas la clé. Ce sont des formules qu'on retrouve très très souvent chez lui et il s'exclame souvent dans son journal « N'être pas encore né et devoir déjà marcher, parler aux hommes », n'est-ce pas ? Pour faire les choses les plus simples de la vie, justement, pour manger, pour se promener, pour parler aux gens, pour avoir des amis, il lui fallait faire un immense effort dont personne autour de lui ne pouvait avoir l'idée. Son journal, donc, c'est le témoin de l'effort qu'il fait pour essayer de s'installer dans la société des hommes, pour essayer d'être comme tout le monde, pour essayer de vivre normalement, en être, comme il dit souvent, n'est-ce pas, sain et utile. À ses propres yeux, il n'était ni sain ni utile. Il se sentait au contraire morbide et inutile. Il avait un sentiment d'incertitude intérieure qui était le début chez lui, incontestablement, de l'angoisse, n'est-ce pas ? Et bientôt, il s'apercevra qu'il n'existe au sens plein du mot que la plume à la main, quand il écrit. Se connaître soi-même, pour lui, c'est... Je crois que là aussi, c'est quelque chose d'assez traditionnel. D'ailleurs, on trouve dans la pensée de certains philosophes grecs la même idée. Se transformer en celui qu'il est, ça paraît étrange. Pourquoi se transformer n'est-il donc pas celui qu'il est ? Eh bien non, justement, on trouve dans les premiers récits de Kafka, ces récits de jeunesse, description d'un combat et préparatif de noces à la campagne, constamment un héros, cela avant qu'il ait atteint sa forme littéraire définitive, un héros qui vit à côté de lui-même, qui n'est pas lui-même, qui n'est pas dans son corps, qui n'est pas dans ses limites, qui n'est pas à la place là où il croit être, n'est-ce pas ? Dans un monde comme celui que Kafka avait nécessairement à connaître à Prague, l'individu n'était pas dans sa propre peau, pour ainsi dire. Il était ailleurs, sans savoir où. Et cette connaissance de soi-même, donc, avait déjà à lui montrer où il était. Et une fois l'ayant reconnu, il s'agissait de consentir, d'accepter d'être ce que l'on est. Et il faut dire que là, Kafka rejoint certaines techniques, disons, jusqu'à un certain point, la technique psychanalytique, n'est-ce pas ? Ce que Kafka considérait comme mauvais en lui, son diable, si vous voulez, c'était justement ce qu'il appelait le cynisme, c'est-à-dire cette habitude qu'a le chien de tourner autour de lui-même, n'est-ce pas, pour se sentir. Et cela, dont il avait horreur, il ne pouvait évidemment pas s'en défaire si facilement. Et son journal servait donc alors un but contradictoire. D'une part, lui permettre d'être tranquillement celui qu'il était, mais d'autre part, de se flairer avec une sorte de volupté maladive afin de se trouver en flagrant délit d'insuffisance, de faiblesse, d'incapacité de vivre.
Nous venons d'entendre la voix de Marthe Robert qui décrit merveilleusement le processus d'écriture chez Franz Kafka et dans votre histoire, Kafka a été une sorte de détonateur, d'explosion de votre imaginaire.
Oui, ça, et surtout, d'autant plus que ça s'est déroulé à un âge qui n'était pas encore un âge où la théorie ou l'analyse était possible. C'est-à-dire, j'ai lu La Métamorphose vers l'âge de 14-15 ans. Je ne savais pas ce que j'allais lire. Alors, je l'ai reçu toute porte ouverte, je dirais. Et là, il s'est passé quelque chose à la fermeture du livre, c'est ressentir très profondément, avoir la conviction que ce livre n'a été écrit que pour moi. C'est pas compliqué. Ce livre n'a été écrit que pour moi et que cet homme, ce jeune homme, à ce moment-là dans ma tête, qui se réveille un matin métamorphosé en un horrible insecte, c'était précisément le héros que j'étais et que j'aurais vraiment voulu ne pas être à ce moment-là. C'est que jusque-là, j'avais beaucoup lu des histoires de héros. Je rêvais d'être, mais il me suffisait de me regarder dans le miroir pour savoir que je n'étais pas, par exemple, Bob Moran ou des choses comme ça. Et là, tout à coup, le héros dont il était question, jamais j'aurais voulu être ce héros-là, ce Gregor Samsa-là. Mais refermant le livre, regardant ma propre famille, me regardant à l'intérieur de cette famille, je sentais bien que cette métamorphose, cet insecte horrible, c'était moi. Et je me demandais bien comment un auteur qui était mort bien des années avant que je naisse moi-même avait pu m'écrire à travers le temps un roman qui n'était destiné qu'à moi. Ça me touche d'autant plus que je vis dans une famille qui n'a de cesse de dire que son malheur vient des Juifs et de la création d'État d'Israël. Et je viens d'une famille qui, comme bien des familles chrétiennes libanaises, maronites, qui ont subi la guerre civile, vont investir les autres de leur malheur, qu'ils soient palestiniens, israéliens, chiites, druzes, sunnites. C'est toujours les autres qui sont les responsables de nos malheurs. Jamais, jamais, jamais nous. Et voici que celui qui se pose la question de la langue, vivant en tchèque mais écrivant en allemand, se demandant ce que c'était qu'être juif, celui-là était beaucoup plus proche de moi, m'avait compris beaucoup mieux, était devenu mon grand frère, beaucoup plus que les êtres que je côtoyais tous les jours qui m'étaient devenus tout à coup extrêmement étrangers. Et ça, cette expérience-là de la lecture, de la littérature dans ce cas-là d'explosif comme ça, évidemment a scellé quelque chose. Je ne voulais appartenir qu'à ça.
Alors ce devenir animal ne vous a pas quitté. Vous venez de sortir un livre incroyable qui s'intitule « Anima ». Je vais en lire un très court extrait, un chapitre qui s'intitule « Canis lupus familiaris terra americana Staffordshire » et qui commence ainsi. « Retenu par le cuir de ma laisse, je sentais le sang battre dans ma mâchoire, la salive emplissait ma gueule, un râlement rauque sortait de mon poitrail, je tirais, ahanant, suffoquant, mettant dans mon cou toute la puissance de mes muscles, j'avais soif de ma course pour rassasier mon désir de sang, le démembrer, lui, là-bas, dans son manteau, le désosser tout entier, lui, là-bas, la proie. Nous étions quatre, tirant sur le cuir de notre laisse. Nous creusions le sol à force de nous acharner à courir sans pouvoir avancer. Et dans notre entêtement à aller de l'avant, nous nous dressions sur nos pattes de derrière pour retomber, reculer, prendre un élan nouveau et bondir au risque de nous étrangler à l'instant où la laisse, au bout de son extension, retrouvait sa cruelle tension. » Et ce livre, qui est composé de très courts chapitres, raconte l'histoire d'un homme. Il n'y a pas de suspense puisque tout est dit dès les premières pages. Raconte l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme alors qu'ils attendaient un enfant. Cette femme a été violée, cette femme a été éventrée, cette femme, il va savoir, lui, le narrateur, quel est le nom de celui qui a commis ce triple crime ? Et il va essayer de partir à sa poursuite. Et en fait, le devenir animal constitue un thème récurrent, souterrain, mais obsédant de la construction de ce roman qui vous a pris, je crois, plus de 10 ans, ouais, je dis moi, Wad.
Oui, c'était le monde qui m'a habité pendant les 10 ans de façon extrêmement secrète, et qui était à la fois le projet qui était le plus intime, le plus précieux, le plus cher, alors que pendant ce temps-là, je faisais des pièces de théâtre Littoral Incendie. C'est-à-dire, ce roman, il est souterrain à Littoral Incendie, Forêt, Seul, Ciel et bien d'autres. Ce qui surgit dans ce roman, c'est, pour moi, en tout cas, dans l'écriture, peut-être, il y a cette idée de vouloir être absolument réfractaire à toute notion de domesticité. Qu'est-ce que j'entends par domesticité? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de mener une vie réussie, bonne? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des avoirs? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des matériaux? Qu'est-ce que c'est que d'être tout à coup sédentaire? Qu'est-ce que c'est que de faire de l'argent? Toutes ces questions au fond de moi, me donnaient le sentiment de perdre un enchantement, d'être égaré à l'intérieur d'un monde auquel je ne comprenais au fond pas grand-chose, où je faisais semblant d'essayer de le comprendre, menant une vie, ne me croyant à aucun moment que j'étais à l'adulte que je jouais à être. Je savais pas ce que ça signifiait. Et lorsque surgit le premier chapitre de ce roman, au fond, ce qui surgissait, c'était un souhait, étrangement, même si c'est absolument monstrueux, un souhait de voir mon quotidien tranché en deux, brutalement. Qu'est-ce qui pouvait m'arracher enfin à cette glu dans laquelle, durant ces années-là, je sentais que j'étais en train de rentrer. J'étais directeur de théâtre, on commençait à reconnaître l'auteur que j'étais. Et je sentais au fond un désir violent de vouloir couper court à tout ça. J'ai vu un jour un chien attaché à une laisse avec une couverture sur le dos et des petits coussinets, c'était l'hiver, à la sortie d'une épicerie. J'ai regardé ce chien longtemps et je me suis dit, c'est toi, tu es ça maintenant, en ce moment tu es en ce moment ceci. Ce roman constitue une question qui est: comment est-il possible de trancher son quotidien quand ce quotidien devient une prison, sans tomber nécessairement dans le malheur, sans tomber dans la perte, sans tomber dans le chagrin. Alors quand j'écris le premier chapitre de ce roman, qui raconte l'histoire d'un homme qui rentre chez lui, qui trouve sa femme absolument monstrueusement assassinée, je décris d'une certaine façon la dévastation de mon propre quotidien. Et à partir de ce moment-là, le projet littéraire s'ouvre à travers la voix de ceux qui nécessairement sont encore sauvages, de ceux qui nécessairement ont encore gardé aucune forme de domesticité, c'est-à-dire aucun des animaux qui est là-dedans, ou presque, il y a peut-être le canari, né domestique, ce sont des animaux, même le pigeon, le ver de terre, qui sont encore en prise avec la sensualité du monde, avec l'enchantement du monde, avec l'absence de cynisme, avec l'instinct, toute chose qui me semblait être resté totalement en arrière dans l'adolescence. Je me suis rendu compte à un moment donné que les questions que je me posais adolescent étaient beaucoup plus vives, beaucoup plus brûlantes que les questions que je me posais en tant qu'adulte. J'avais l'impression que l'adulte que j'étais était un adulte qui n'avait fait que oublier les convictions et les brûlures de l'adolescent qu'il était. Et cette espèce de refus brutal, s'est traduit à l'intérieur du roman à travers l'histoire d'un homme qui se voit totalement, brutalement arraché à son quotidien. La voix animale surgit comme étant la seule voix possible pour moi pour raconter ça, puisque au fond toute autre voix me semblait être une voix, une voix domestique, la voix d'un esclave. Comment faire pour se sortir d'une forme d'esclavage qui provenait du statut social, être esclave de son statut social, être esclave de son quotidien, être esclave du regard des autres sur soi. Comment casser cette chose-là presque à coup de couteau? Et c'est peut-être ça qui meurt au début du roman, peut-être, pour moi, en fait. Je réfléchis à voix haute tout en vous parlant.
Alors, Anima avait eu un succès international, a été traduit en de nombreuses langues. C'était un registre d'écriture à la fois introspectif, avec des échos autobiographiques, une veine d'écriture, mais depuis, l'écriture a continué et dans différentes directions. On se demande, Wajdi Mouawad, quelle est cette nécessité et cette espèce de polyphonie que vous avez à l'intérieur de votre tête ? Est-ce que l'écriture est une nécessité ?
En tout cas, elle est source vive qui agit continuellement et la nécessité vient de ce qu'elle elle appelle à être. Alors je m'assois et je prends le crayon et j'écris. Donc c'est une nécessité qui naît d'elle et non pas quelque chose que l'on pourrait imaginer. Voilà, je ressens une nécessité d'écrire, alors j'écris. Il y a quelque chose de l'ordre de la source vive, comme une source d'eau qui ne fait que apparaître continuellement et qui a besoin qui appelle à être, qui appelle. Donc alors ça prend des formes différentes, parfois ça prend des formes qui n'auront aucune forme extérieure, c'est-à-dire c'est écrire dans un cahier, on pourrait appeler ça un journal, et parfois cela peut arriver à être le début d'un récit, d'un roman, alors que dans le théâtre, c'est un peu plus organisé, puisque le théâtre appelle une date déjà, appelle déjà un lien avec un théâtre, avec une première, avec des acteurs, donc ça s'organise d'une autre manière. Mais entre l'écriture romanesque et l'écriture théâtrale, au fond, il y a au fond d'une caverne intérieure, je ne sais pas comment dire, une source qui appelle à être, et qui est cette écriture-là.
Alors quand on voit vos pièces de théâtre que vous avez écrites, ou quand on lit les pièces de théâtre avant ou après avoir vu les spectacles, on se dit, Wajdi Mouawad, que vous avez peut-être dans la tête des tas d'histoires qui doivent être déposées pour pouvoir à la fois les transmettre et peut-être vous en débarrasser en quelque sorte. Et là, je pense particulièrement à Sœur au pluriel, qui était en quelque sorte en continuité avec Seul. Seul, vous étiez sur le plateau et il s'agissait de l'histoire de la remémoration avec votre propre père. Et là, il s'agit d'une sorte de double sororité, puisque c'est de l'histoire de votre propre sœur dont vous nous parlez, mais en même temps, vous avez choisi quelqu'un d'autre que votre propre sœur pour être sur le plateau. Est-ce que l'écriture s'est dénouée des fils qui sont déjà très tissé, très serré à l'intérieur de votre cerveau?
S'il y avait des fils à dénouer, c'est peut-être les remonter pour essayer de savoir qu'est-ce qui... C'est-à-dire, si je ressens une douleur, si je ressens une souffrance, si je ressens surtout une peine profonde, je sais parfois que cette souffrance et ce qui a du chagrin en moi n'est pas à moi. Ce qui souffre en moi n'est pas à moi. Quelque chose souffre à travers moi. Et cette chose qui souffre à travers moi, eh bien, dans ce cas, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Mais c'est des choses qui sont de l'ordre tellement du tactile et du sensible et du temps. C'est-à-dire comme si moi, petit frère de ma grande sœur, depuis l'enfance, j'ai accumulé sans le savoir et je suis devenu sans le savoir dépositaire de ma sœur, qui malgré les joies, les sourires, la générosité dont elle a pu faire preuve, j'ai pu percevoir en elle une peine absolument immense. Que je n'ai jamais conscientisé, mais qui a fini par nouer des fils en moi. Et donc souvent, ces fils qui sont noués en moi ne sont pas à moi, ne sont pas qu'à moi. Et ça, c'est une chose vraiment très importante qui est en lien à l'écriture, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas que pour soi, on écrit pour reprendre la pensée de Deleuze, qui pour moi a été vraiment une sorte de très grande révélation, quand il dit, je crois dans l'abécédaire, on écrit pour quelqu'un, pour non pas à l'adresse, mais à la place de. On écrit pour celui qui ne peut pas écrire, on parle pour celui qui n'a plus la capacité de parler parce que sans voix, parce que sans parole. Et je peux très bien comprendre ce que c'est que tout à coup aimer quelqu'un profondément et qui a perdu la parole parce que trop sans voix, et qui serait, mettons, agressé, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la parole pour lui, on va le défendre, on va parler à sa place. Et il y a quelque chose là entre la, justement, là, cette quête intérieure, comme ce que moi j'appelle la rencontre du poisson soi, un peu comme s'il fallait rentrer dans un aquarium intérieur rempli de choses immondes, de choses terribles, de choses infectes, pour aller essayer d'atteindre ce petit poisson soi aux écailles lumineuses dans lequel tout à coup il y a quelque chose de puissant de la vie qui est là et qui devient à travers les mots l'histoire de là ma sœur, l'histoire de celui que j'aurais pu être si j'étais resté au Liban, etc. Donc c'est des transmutations qui sont assez mystérieuses et que moi-même j'arrive pas tout à fait à saisir et qui fait en sorte que cette source dont je parle continue à être et à appeler à vouloir être, voilà. Donc, mais ça, cette idée de quoi je suis dépositaire, elle est vraiment fondamentale dans ma manière d'appréhender le monde.
Mais comment on passe du un et de l'unicité de sa propre histoire, dont vous nous entretenez finalement depuis maintenant deux décennies, ou ai-je dit moi, Wan, à ce sentiment d'universel que vous nous donnez? Parce que effectivement, seul vous parliez de votre père et de vous, sœur vous parliez de votre propre sœur et de vous, mais en fait, bon, c'est pas ça qui nous émeut, c'est quelque chose d'autre.
Oui, eh bien, il y a peut-être la foi, pas au terme religieux, la foi, c'est-à-dire la conviction, la confiance, voilà, la confiance de l'enfance, de croire que on est vivant parmi des vivants et que ce que l'on ressent, si c'est raconté à travers une histoire, si dans mon cas là, je ne veux pas dire par là que ça ne peut passer que par le récit, mais en tout cas pour moi, en construisant un récit et en l'investissant et en l'adressant, en suivant très précisément le fil de sincérité qui est en moi, de manière entêtée, absolument entêtée, donc en traversant les tempêtes qu'on appellerait les modes esthétiques, en traversant les gouffres qu'on appellerait le regard de l'autre ou l'opinion des gens, en restant entêté sur le fil de sincérité qui est en soi, à travers, là, dans mon cas, une histoire, un autre artiste, ce serait à travers une forme, etc. Et là, il y a, je pense, la traversée du vide pour arriver vers, étrangement, l'autre qui se reconnaît complètement et qui dit moi aussi ma mère, moi aussi ma vie, moi aussi le monde, moi aussi l'inquiétude, moi aussi l'ébranlement. Et c'est à chaque fois un saut dans le vide et une terreur, une peur de pas arriver à rencontrer, à faire ce lien à travers l'histoire auprès de celui qui est assis dans le noir et qui reçoit le spectacle ou qui lit le roman. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Il y a une séquence que j'aime énormément dans Indiana Jones 3, qui pour moi est un truc qui m'a toujours halluciné. C'est ce moment où il arrive devant le vide, et voilà, son père est en train de mourir, il y a les méchants nazis qui lui courent après, et il faut qu'il marche dans le vide pour arriver de l'autre côté où le Graal l'attend pour sauver son père qui est en train de mourir. Et dans son livre, qui est une espèce de guide Michelin un peu antique, de l'Antiquité, il lui dit, bah voilà, faut que tu marches dans le vide. Et bah après, bah, il n'a pas le choix, il marche dans le vide, il pose le pied dans le vide et il ne tombe pas. Et là, la caméra fait un mouvement et on voit apparaître un pont dessiné en trompe-l'œil que, vu de face, on ne pouvait pas voir. Et il y a ce moment où on pose le pied dans le vide devant un pont invisible. On peut juste espérer que le pont est là. Mais il y a ce geste, il y a ce moment, ce mouvement à faire qu'on fait à chaque fois lorsqu'on essaye de suivre précisément ce fil de sincérité qui est en nous.
Vous êtes auteur, metteur en scène. Vos textes, vos mises en scène voyagent à travers le monde entier. Vous avez beaucoup de choses encore à nous dire. Pourquoi avez-vous accepté la lourde charge et la responsabilité de diriger un théâtre national comme celui de La Colline? N'avez-vous pas peur que cela entrave tout ce que vous avez dans la tête?
Non, au contraire. Il y a quand on m'a appelé pour me poser la question, est-ce que si on vous nommait à la direction de la colline, est-ce que vous accepteriez? Au moment où la question m'a été posée, je me suis rendu compte qu'il y avait en moi des désirs que j'avais vraiment oubliés, parce que avec la compagnie avec laquelle je travaillais jusque-là, nous sommes cinq dans cette compagnie, on faisait des spectacles librement, on créait ce qu'on avait envie de créer, et comme vous avez dit, ces spectacles tournaient et c'était assez merveilleux. Donc je me suis rendu compte que c'était pas sur le plan artistique. Je me disais, je ne prends pas un théâtre pour créer mes spectacles, c'est pas ça. Mais il y avait une chose qui me manquait au fond énormément, c'était le monde, c'est-à-dire m'impliquer vraiment dans le monde, dans le domaine public, faire des choses pour les jeunes, faire des choses pour pour des spectateurs, penser, rêver un lieu pour d'autres et le partager avec d'autres artistes. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire quand on a une compagnie. Quand on a une compagnie, c'est merveilleux parce qu'on est libre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut pas partager. Il y a des activités. Alors, on a essayé de faire des activités avec les adolescents, avec cette compagnie. Mais très vite, nous étions saturés. Avec un théâtre comme La Colline, qui est un lieu d'écriture, donc il y avait quelque chose qui, pour moi, appelait une évidence. Je sentais que c'était juste. S'il y avait un seul théâtre où je pouvais vivre et continuer à être ce que je suis, c'était dans ce théâtre-là. Et c'est un théâtre hyper puissant, avec une équipe extrêmement talentueuse, à tous les domaines, que ce soit dans la communication, les relations publiques, la technique, l'accueil, etc. Donc, je pouvais, en m'adossant à un théâtre aussi fort, nous sommes quand même à peu près 80, penser, rêver, donner un sens, à la fois dans le partage avec les autres artistes que dans le rapport au public, et qui pouvait être pris en charge ensuite par le théâtre au complet. Et c'est plus qu'une joie, c'est insensé, c'est une chance énorme, extraordinaire de pouvoir rêver à des projets qui soient artistiques ou sociaux, je dirais, ou liés au public, de pouvoir les exprimer, les écrire, les mettre en place, et qu'ensuite ces projets soient pris en charge par une équipe qui les comprend et les porte à son tour et les réalise, et qu'on les réalise tous ensemble. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec une compagnie. Et pouvoir le faire dans un théâtre comme ça c'était essentiellement cette colline où je pouvais à la fois marcher avec le versant artistique d'un côté et le versant public de l'autre. Alors qu'avec la compagnie, on est au fond avec le versant artistique. Et j'ai besoin d'avoir les deux versants.
Votre nomination a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes aussi, en raison de vos origines, en raison du succès international que vous obtenez, en raison de tout ce que vous pouvez nous apporter dans une France un peu désaccordée et qui vit des temps politiques un peu agités. Quelle définition donneriez-vous du théâtre aujourd'hui et qu'en attendez-vous ?
Eh bien, ça restera pour moi un lieu de rencontre. Cette notion de rencontre, elle est de tout temps liée au théâtre. La rencontre, parce que c'est du vivant avec du vivant. Le théâtre, ça reste toujours ce moment où des spectateurs voient devant eux des acteurs vivants, contrairement au cinéma où ils sont devant un rêve, des figures. Humphrey Bogart est mort depuis longtemps, mais on continue à le voir. Alors qu'au théâtre, ce sont des vivants devant des vivants. Donc l'essence du théâtre, c'est cette rencontre. Alors à partir du moment où on évoque le mot de rencontre, qui pour moi, sur la question de ce qu'est le théâtre, cette définition, la rencontre autour d'une parole vivante en face de moi, porté par quelqu'un de réel devant moi, mais qui n'est pas là pour me convaincre de voter pour lui, qui n'est pas là pour me convaincre de croire en quelqu'un, un dieu X, Y ou Z, qui n'est pas là non plus pour me convaincre d'acheter un produit X, Y ou Z, qui au fond dans nos sociétés sont encore les trois endroits où on a encore un vivant qui parle devant du vivant. Le seul endroit où un vivant parle devant un vivant pour ne pas le convaincre de quoi que ce soit, sinon que d'être dans un rapport de rencontre entre nos mystères respectifs, c'est le théâtre. C'est autour de la parole, avec la parole comme axe de rencontre. Alors, en partant de cette idée-là, quand on la déploie sur ce que c'est que de rencontrer l'autre, là on arrive à des choses vraiment passionnantes qui concernent notre époque, avec ce que l'on vit en ce moment. J'ai exprimé à plusieurs reprises l'idée que le mot de diversité n'était pas un mot qui me mettait à l'aise, parce que dire le mot diversité, c'est opposer une diversité à une homogénéité. C'est-à-dire, on part du principe qu'il y a un public diversifié. Ça veut dire que, au fond, qu'est-ce qu'on entend par un public diversifié? Bah, c'est un public noir, arabe, etc. C'est-à-dire des étrangers qui, voilà, ne sont pas assez représentés sur nos plateaux, qui ne sont pas souvent dans les théâtres. Et on les oppose à un public, quoi, homogène, nous. Mais pourtant, ça veut dire que nous n'aurions pas le droit d'être divers. Pourtant, nous sommes divers. Quand vous allez au théâtre et que nous sommes assis, mettons, côte à côte, vous ne ressentez pas ce que je ressens, avec nos sensibilités différentes. Donc, je préfère parler plutôt d'un public qui ne va pas au théâtre parce qu'il en a peur, parce qu'il ne se sent pas concerné, parce qu'il pense que ce n'est pas pour lui. Et ce public-là, Eh bien, si on veut utiliser le mot de diversité, il est diversifié pas seulement dans ses origines ethniques, il est aussi diversifié dans ses classes sociales, il est diversifié dans ses origines, même au niveau éducatif, etc. Donc la question sur comment faire en sorte que le théâtre puisse accueillir des gens qui en ont peur. Là, je commence à, et donc, de comment rencontrer, comment les inviter à une rencontre, comment défaire, mais des deux côtés. Parce que si vous voulez un public qui a énormément l'habitude d'aller au théâtre, qui a énormément l'habitude d'aller dans un théâtre aussi, alors, élitiste que le théâtre de la Colline, parce qu'il faut quand même dire la chose, c'est quand même devenu un théâtre hyper élitiste, il y a un certain public qui pense qu'il a les droit de cet élitisme et qui, par exemple, ne supporterait pas trop d'avoir un public étudiant à côté de lui qui parle ou qui fait du bruit et qui peut même finir par penser que ce public n'a rien à voir à faire dans le théâtre. Ça peut presque être classe affaires, classe économique, quoi, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est là où il y a un travail à défaire, à amener sur la notion d'un théâtre populaire. Et ce que j'appelle un théâtre populaire, pour donner une image qui pour moi est très importante, c'est par exemple la cathédrale Notre-Dame. Pour moi, ça c'est une architecture qui est extrêmement puissante parce que c'est, je crois, une des rares, et pour pas dire la seule, je ne sais pas, mais une des très rares cathédrales qui n'a pas de marche pour y accéder. La cathédrale Notre-Dame, elle est au ras du sol. Vous ouvrez la porte, vous y rentrez comme dans une boulangerie. Et le rapport, si vous voulez, inversement proportionnel entre la facilité de rentrer dans cet endroit et la complexité symbolique de ce lieu, pour moi, c'est ça l'art populaire. C'est-à-dire...
C'est dommage pour vous, parce qu'à la colline, il y a des marches.
Oh, pas trop. Il y a quand même, on ouvre la porte et on rentre. Mais ça, pour moi, si vous voulez, c'est-à-dire que pour moi, c'est généreux. Il faut que ça soit, au niveau de l'accueil, généreux, mais exigeant. C'est-à-dire, on y entre facilement, mais c'est complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que l'âme humaine est complexe, parce que nous sommes complexes. Mais au départ, il doit, pour moi, c'est très important de travailler sur l'idée de l'accueil, de l'hospitalité. Voilà. Et donc, mais tout ce que je viens de dire a pour socle fondamental ce mot de rencontre. Mais rencontrer celui qui n'est pas nécessairement comme nous. Rencontrer aussi celui qui est différent de nous, que ce soit l'étudiant, que ce soit la personne d'une autre classe sociale, d'une autre classe éducative ou d'une autre origine ethnique.
Ben merci, des bons vents pour la colline.
Merci.
Et merci pour tous vos livres qui sont tous publiés aux éditions Actes Sud et qui sont tous préfacés. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié par des espèces d'introductions, soit sous forme de lettres, soit sous forme de méditations, qui expliquent pourquoi et comment et dans quelles circonstances vous écrivez. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Guillaume Leduc, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.